on a un point commun. C'est qu'au-delà du fait qu'on est entrepreneur, toi, tu t'es auto-labellisé petit con sur LinkedIn.
Ouais.
Et que moi, ma maman, quand j'étais petit et que je l'embêtais trop, elle me traitait de petit con.
Ah.
Et donc, en fait, aujourd'hui, moi, je te propose qu'on soit tous les deux des petits cons. On s'est noté une petite vingtaine de sujets dont on avait envie de parler ensemble. Des enseignements, des observations, mais aussi beaucoup de ce qu'on appelait des hot takes, c'est-à-dire des petites déclarations, des petites prises de position, des opinions qui peuvent être sujets à débat. On va mettre tout ça sur la table, à tour de rôle, ping-pong, et on en discute. Et on voit ce qui en ressort. Mais je pense que ça peut faire deux, trois étincelles. Mmh. Et surtout, l'objectif, c'est vraiment vous apporter un maximum de valeur parce que c'est un espace qu'on est en train de se créer pour aborder des sujets dont on n'a pas forcément beaucoup l'occasion de parler et dont on n'entend jamais parler outre mesure. Je te laisse ouvrir le bal.
Sujet numéro 1, je vais noter qu'on arrête de taper sur les coachs et les infopreneurs alors que leur dieu Hormozy est l'un des nôtres. C'est, j'attaque pas la personne, j'attaque un propos très particulier dans une vidéo très particulière. Il y a le CEO de Finary, Mounir Laghoun, qui a fait avec une personne avec qui il travaille régulièrement un contenu vidéo où en gros ils prennent des pubs et des takes d'entrepreneurs, des infopreneurs coach, ils disent est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est mal. Et ils défoncent un peu les gens. Le fond était pas dégueulasse, il y avait du défonçage un peu facile sur certains sujets, mais surtout, on retournait dans cette même rengaine, tu vois, de nous les start-upers de Y Combinator, vous les coachs et les infopreneurs. Mais tous ces gens-là qui ont cette posture, ils sont tous en admiration devant Hormozy. Donc je voulais juste remettre les choses un peu, c'est l'église au centre du village, comme on dit. Hormozy, c'est le coach de coach de coach de coach ultime. Le mec, il avait une salle de sport, il a monté des franchises, il en a eu 7, il les a revendues, il avait plus un rond parce qu'il y avait des sortes d'escroqueries, mais il savait remplir une salle de sport. Donc il a commencé à le faire pour des salles de sport. Quand il a vu que c'était fatigant et qu'il l'avait beaucoup fait et que ça marchait, il a commencé à l'enseigner aux salles de sport. Il en a fait Gym Lounge, qu'il a monté très très haut et qu'il a revendu, ou il a rendu une part majoritaire pour 50 millions, un truc comme ça. Ensuite, il a monté Acquisition.com, où il prend des parts pour t'aider à monter ton business. Et à côté de ça, il fait du contenu pour t'aider à monter ton business gratuit sur YouTube. C'est un des nôtres, le gars. Et donc, j'en ai marre de voir les start-upers l'ériger en dieu vivant. Alors que le mec, il a fait exactement comme nous. Donc en gros, c'est quoi? C'est les infopreneurs et les coachs, c'est bien quand ils pèsent 100 millions, mais quand ils pèsent 500 000, c'est des escrocs. Et j'en ai plein le cul de voir ça, je trouve ça fatigant. Je sais qu'il y a des dérives dans nos métiers, et je sais qu'elles doivent cesser, et que tout le monde doit faire mieux. Mais à un moment, c'est aussi des vraies entreprises, en fait. Quand c'est un centre de formation, personne ne dit rien. Quand c'est un coach indépendant, personne ne dit rien. Quand c'est une école, personne ne dit rien. Mais quand c'est un infopreneur, tout le monde dit « Ah, c'est pas bien ». C'est le même métier, en fait.
Ça vient d'où, selon toi?
Il y a un truc qui est très très différent entre les startups qui cherchent la valo, les agences et prestataires qui cherchent le truc lean et la RR, et les infopreneurs qui sont des business à cash flow en fait. Et donc en fait, c'est trois façons de faire de l'entrepreneuriat radicalement différentes, avec un sens radicalement différent, avec des métriques différentes, avec des objectifs différents, des incentives différents, etc. Et c'est des milieux qui se comprennent pas. Et tu vois, c'est genre, nous, les start-upers, on est bien. Ensuite, derrière, t'as les agences qui fait, vous, les start-upers, vous avez pas de cash flow et vous êtes over-financés. Nous, les agences, on est bootstrappés, et on fait un vrai métier qui a du sens et on aide Coca-Cola. À côté, t'as les infopreneurs qui disent, non, mais les gars, vous savez pas faire du cash, on s'en bat les couilles. De toute façon, tout ce qui compte, c'est le cash flow. Mais les infopreneurs, pour beaucoup, y a pas de sens dans ce qu'ils font. Ils veulent juste faire du cash. C'est trois métiers qui discutent pas bien ensemble. Moi, j'ai hâte de voir un truc qui mélangera un peu plus les trois, quoi.
C'est comme si le foot, les footeux, les handballeurs, les basketteurs et les rugbymen se foutaient de la gueule et se méprisaient les uns les autres.
Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas le même sport.
Pas le même sport. C'est-à-dire que c'est le même environnement. T'as un terrain, t'as un ballon, t'as des cages ou un panier. T'as un endroit où mettre le ballon, mais par contre, c'est pas le même sport, c'est pas les mêmes règles et c'est pas les mêmes attentes.
Et ce serait ridicule exactement pareil si demain Zidane était devenu coach de basket et qu'on disait... Ah, Zidane, c'est vraiment un mec extraordinaire, contrairement à tous ces footeux. Tu vois, quand les gens, ils disent, les infopreneurs et les coachs, c'est des bouffons, mais nous, on aime du Hormozy, ça me fait le même effet. Ça n'a pas de sens.
Il y a une porosité de plus en plus prononcée. Ouais. Tu me parles d'Hormozy, mais récemment, Sam Ovens. C'est cool.
Ouais.
C'est-à-dire que il a fait sa transition d'infopreneur ultime. À l'époque, je me souviens, il se faisait tracher dans tous les sens parce que infopreneur ultime a aujourd'hui start-upper fois 1000 avec School.
Même pas que lui.
David Laroche.
Ouais.
Il est en train
David Laroche avec Paradox qui est vraiment passé du côté start-up edtech de la force.
Mais en dehors de ça, en fait, les start-upers, vous êtes des infopreneurs qui s'ignorent.
Exactement. Mais si tu regardes le cercle proche d'Hormozy, c'est quoi? C'est Brooke Castillo, Life Coach School. 50 millions, je crois, par an, comme ça. C'est une life coach qui a fait des formations pour devenir life coach. Dean Graziosi, le marketeur de Tony Robbins. Russell Brunson, ClickFunnels, hein. Les funnels, les coachs, les infopreneurs, le mec qui vendait des formations pour faire des fusils à patates, hein, voilà. C'est que des gens comme ça. Et donc, il y a de plus en plus de porosité parce que les mecs, ils commencent dans le coaching, ils créent un infoproduit et ils se rendent compte que c'est pas le truc le plus pérenne et le plus revendable. Donc, en fait, avec le cash, ils vont build des SaaS et avec des technos et ils commencent à faire de l'invest et à mettre de l'IMO et à créer des fonds. Grant Cardone, qui est pareil, l'infopreneur un peu ultime, il a 2 milliards d'IMO. Alors qu'ils vendent des formations sur la vente et sur l'IMO. C'est plus aussi clair et catégorisable qu'à l'époque. Et donc, quand il y a des gens qui essayent encore de catégoriser et d'être réducteurs, ça me gratouille dedans.
Ça en dit plus long sur l'émetteur du message que sur la cible du message, finalement.
Ouais, bien sûr. Et à la fois, moi aussi, peut-être que si je reconnaissais pas qu'il y a des problèmes dans mon industrie, ça m'énerverait pas que quelqu'un le dise. Au moment, faut aussi, tu vois, c'est facile de dire, il est méchant de dire ça. S'il était que méchant et qu'il n'y a pas une part de vérité, ça m'énerverait pas.
J'enchaîne?
Allez.
Alors, j'ai noté, c'est un petit texte.
Vas-y.
Internet, 2 points. Monte ta boîte, frère, c'est ça la liberté. La vraie vie, 2 points. Toujours plus de salaires à payer tous les mois. Toujours plus de réglementations à satisfaire. Toujours plus de compétences à développer. Toujours moins de jours de vacances. Toujours plus d'objectifs à atteindre. Toujours plus de clients à satisfaire. Toujours plus de conflits à gérer. Toujours plus de toujours plus. Et je vais être très cash, entreprendre, ne rend pas plus heureux et souvent moins qu'un job cool. Ouf. Et très souvent le choix par défaut des inemployables n'est jamais le remède à une crise existentielle. N'a strictement rien de romantique. En fait, personne ne réalise à quel point entreprendre est difficile avant de s'y essayer. Et paradoxalement, c'est précisément ce qui rend l'entrepreneuriat aussi fun. Force à tous les inemployables.
C'est tellement ça. Ouais, moi j'ai entrepris pour la... Non, t'as entrepris parce que tu peux pas, en fait. C'est moi, tu me fous dans un bureau, je dépéris. Ou ils me foutent de un coup de pied parce que je suis insupportable. Moi, j'ai quand même expliqué il y a des années... Hein. Je suis pas très fier de ça, mais c'est drôle, hein, quand on y repense, à ma maître de stage, que j'étais le seul du bureau à pouvoir faire du web marketing et du SEO, que n'importe qui pouvait tricoter des pompons pour la soirée, et que d'après la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, c'était une très mauvaise utilisation des ressources disponibles que de me demander de faire des pompons. Après, ils m'ont beaucoup envoyé promener le chien, quoi. Ils voulaient plus trop que je sois dans le bureau. Et donc, si tu veux, je peux pas dire, j'ai entrepris par choix et vocation. Non, j'ai pas le choix, en fait. C'était obligatoire pour moi. Je suis pas employable. Je suis trop chiant. Et l'entrepreneuriat est une forme de rat race. C'est le monde qui dit quitter la rat race. Je regarde les horaires des salariés, je regarde nos horaires d'entrepreneurs, en vrai. C'est juste qu'on aime ce qu'on fait 80-90% du temps, donc on n'a pas l'impression de bosser. Mais on fait plus d'heures que tout le monde. Hein. Les gens, ils aiment trop taper sur les salariés, sur LinkedIn, je trouve. Et puis sur tous les réseaux, c'est la mode en ce moment.
Ouais, mais t'as une...
Ils ont des vies plus cool, hein. Ils ont des vies beaucoup plus cool.
L'observation est quotidienne. C'est pour ça que t'as besoin de te rassurer. Ouais. Et puis t'as besoin de rallier des gens à ta paroisse. Et surtout, bah, quand ton biz, c'est de vendre l'entrepreneuriat à des ou entrepreneurs qui veulent potentiellement monter leur boîte, qui veulent s'y essayer, bon, bah, forcément, t'as un message tout trouvé, quoi.
Ouais.
Mais, non, ça rend pas plus heureux. Hein.
Mais à la fin de la journée, moi, je claque pas la porte. J'ai toujours tout dans la tête. Et le samedi, et le dimanche. Et s'il y a un problème un peu grave dans ma boîte, dans un moment où j'étais en famille, ça peut me parasiter, si je le vois. Si je le vois pas, ça va, tu vois. Et non, les entrepreneurs sont pas plus heureux. Ils sont plus libres sur le papier. Ils ont plus de possibilités. Mais avec plus de possibilités, ils ont aussi plus de responsabilités.
T'es sûr qu'ils ont plus... T'es sûr qu'on a plus de liberté? Enfin, plus de possibilités, même?
Tu peux travailler de partout. T'as quand même généralement plus de revenus. Pas tout le temps, tu vois, mais... Si on prend la moyenne des salariés, la moyenne des entrepreneurs... Encore que, tu sais quoi, je suis même pas sûr. Faut peut-être regarder les stats. Je les ai pas.
J'aurais tendance à penser, si tu regardes, déjà, t'as eu qu'une toute petite portion des entreprises, tout secteur confondu, qui dépasse le 1 million d'euros de chiffre d'affaires.
Ouais.
Et je pense que la moyenne des entrepreneurs vivent très chichement. De manière générale.
Je pense que je suis dans un microcosme, mais que du coup, j'ai un peu une opinion qui est biaisée.
Ouais, moi aussi.
J'ai l'impression que tout le monde s'en sort bien, en fait, pas tant que ça.
Je m'efforce de regarder, mais au-delà, je pense que t'as beaucoup d'entrepreneurs, hein, honnêtement, qui au-delà de quelques défraiements, de quelques avantages fiscaux, forcément. Je parle même pas d'optimisation, hein, mais forcément, tu as certains avantages vont se payer très peu finalement.
Je fais plus d'heures que le salarié moyen, sans aucun doute, mais. Si ma femme à 16h m'envoie un message, elle me dit je vais me balader à la plage avec notre fils et le chien, tu veux venir? Bah ouais. Je suis en train de faire un truc, je peux le faire après, quoi. Ce genre de truc crée quand même une liberté de je vais au sport alors que je veux, je fais ce que je veux comme je veux. Ouais, j'ai des responsabilités, mais il y a que moi-même pour me fouetter. j'ai plus de liberté organisationnelle, je dirais. Et ça, pour moi, ça a de la valeur. Attention, il y a plein de gens qui s'en foutent, tu vois. Mais pour moi, ça a beaucoup de valeur, ça. De pouvoir un peu moduler mon planning comme j'ai envie. Mmh. Je trouve ça cool. Maintenant, si la seule métrique qu'on optimise, c'est le bonheur, je pense qu'il vaut mieux être salarié. Parce que vu que t'as une vie plus simple, plus cadrée, plus réglée, avec plus de prédictabilité, t'es globalement plus heureux, je pense. Hein.
On enchaîne. Je pense qu'on aurait tellement de trucs à dire sur ce sujet.
Sur ce sujet-là, on pourrait...
Hey, c'est Benoît, j'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier, c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant, on a une newsletter qui envoie 2 fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompt ChatGPT inédit, de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation. Je te parle de micro-cours qu'on produit nous-mêmes, apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000 donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo.
La FTC, donc le gendarme de la consommation américaine, tire à vue aux États-Unis. Revoyez tous votre copywriting pour pas aller en prison. Alors, il y en a 2 qui se sont fait taper là récemment aux US. Il y a Leur, je sais pas exactement ce qu'ils faisaient, mais c'était un peu du coaching, etc.
Okay.
Qui ont pris 3 millions d'amende, ou 2 millions, je sais plus. Et t'as Traffic and Funnel, qui est un truc très 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 connu de business coaching et formation aux US, qui après 1 an de galère avec la FTC a pris 1 million d'amende pour false claim, donc pour fausse promesse, sur leur vertical sales mentor qui faisait de la formation de sales, alors même que 95% de leurs sales avaient les résultats escomptés. Mais vu qu'ils ont pas été en mesure de prouver juridiquement que 100% avaient les résultats, bah ils avaient pas le droit de les promettre. 1 million d'amende, communiqué de presse officiel. Et on voit la FTC qui en tape de plus en plus. Et j'ai une croyance personnelle que la DGCCRF va trouver ça très inspirant et va vouloir faire la même chose en France. Et je connais beaucoup de gens qui ont du copywriting sur leur page de vente qui passera pas.
T'as des exemples? Enfin, pas des exemples, des verbatims que tu vois sortir régulièrement?
Formez-vous à telle compétence pour faire plus 3000 euros en 90 jours. Est-ce que c'est vrai pour 100% des gens? Sinon, fausse promesse. Tu pourrais dire la méthode qui m'a permis, quand j'étais journaliste, de faire 3000 euros de revenus en plus en 90 jours. Ça t'arrange de le dire. Et moi, sur les pages, en fait, on fait ça comme ça. On dit la méthode qui m'a permis d'eux. Et en général, moi, j'ajoute même une petite astérisque. J'ai aucune idée si vous allez faire plus, moins ou rien du tout. Ça dépend de vous. Mais au moins, je vous montre pas à pas comment faire. Et c'est plus transparent, c'est plus juste. Alors, tu perds 10-20% de gens, hein, avec ça, en étant un peu trop honnête. Mais c'est plus sain. Et puis, t'as moins de problèmes de livraison derrière, etc. T'as pas les mêmes attentes des gens. Et quand t'as assez de data et assez de clients que t'as accompagnés, ce que j'aime bien, ça c'est Hormozy chez lui que j'ai piqué cette idée. C'est, tu peux dire, nos clients, en moyenne, ont. Et donner une data. Et ça, t'as le droit de le dire, tu vois. Et donc, si t'as un service livraison qui dépote, bah, c'est cool. Moi, je sais que je peux dire, parce que je suis capable de prouver juridiquement demain matin, que nos clients ont en moyenne x2 leur investissement chez nous dans leur temps d'accompagnement. En moyenne, il y en a qui ont fait beaucoup plus, il y en a qui ont fait moins, mais je peux le prouver. Et donc ça, j'ai le droit de dire. Et donc ça, c'est un argument rassurant qui peut servir de promesse, mais qui juridiquement est clean. Et c'est pas de la surpromesse de devenir riche et célèbre en 3 semaines. Et donc quand je vois qu'aux États-Unis ça commence à taper, je me dis qu'en France, ça va venir aussi.
Je reste très vigilant aussi sur
les claims.
Et en fait, nous, on se pose vraiment la question du message aussi de notre côté, parce que t'as toujours la... Tu sais quel produit tu délivres, tu sais quelle valeur t'apportes. Par contre, il y a un vrai sujet quant à ta compréhension de cette valeur, mais aussi quant au message avec lequel tu vas présenter cette valeur. De notre côté, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que nous, ce qu'on transmet à nos clients, c'est ce qui nous permet de faire plus 80 à plus 100% de chiffre d'affaires tous les ans. Notre côté.
Ouais.
Donc, ce qu'on fait, on sait que ça marche et on sait que pour les clients qui exécutent ce qu'on leur dit de faire, ça marche aussi.
Non, mais tu vois, t'as dit la phrase importante. Ceux qui exécutent ce qu'on leur dit de faire.
Ceux qui exécutent ce qu'on leur dit de faire. Mais on sait aussi que, par contre, c'est impossible pour nous de promettre un plus 80 ou un plus 100% systématiquement. Par contre, on sait que si tu le fais, tu vas aller chercher plus 30%. Plus 30%, franchement, ça, c'est très faisable. Surtout sur des boîtes, surtout sur des boîtes de l'ampleur de celles qu'on accompagne, c'est-à-dire des boîtes qui sont entre 100, 150, 200 grand minimum, jusqu'à un petit 7 chiffres.
C'est plus facile de promettre de la croissance avec les bons process et le bon environnement comme vous l'avez sur des gens qui ont déjà un product market fit et que vous faites accélérer que sur des gens qui l'ont pas et en fait vous avez aucune idée si on le trouve ou pas.
Exactement.
C'est ça la diff, je pense.
Exactement. Et donc, mais par contre, la question forcément, elle est dans comment est-ce que tu encapsules ça en une phrase pour la rendre catchy. Donc nous aujourd'hui, on est sur ce postulat-là qui est on t'apprend à plus 30% de tout ça chaque année. Mmh. Effectivement, derrière, t'as l'astérisque qui est bah tout le reste du copywriting dans la page où on t'explique les choses en détail, mais t'as cette première claim qu'on back avec de la data. Mmh. Mais effectivement, astérisque première, c'est pas parce que tu signes chez nous que tu vas à plus 30%. Non, ça a demandé beaucoup, beaucoup de taf. Parce que chez nous, c'est du done with you. On va le faire avec toi. On va t'apprendre. Si tu travailles pas, si t'en as rien à faire, non, effectivement, t'auras pas ce résultat-là. Mmh. Mais je pense que c'est sain, tu vois. C'est vraiment très très sain de remettre un petit peu de clarté là-dedans. Et de toute façon, je pense que le marché aujourd'hui tend à se durcir énormément. Et je pense que la réglementation a toujours un train de retard sur. Sur le comportement du marché.
Ouais, d'accord avec toi.
Donc, je pense que là, la FTC vient
parce que les marketeurs sont des petits filous. Donc, forcément, on est plus agile et on vient foutre le bordel. On vient surfer sur des vides juridiques. Malheureusement, ça fait partie du marché, quoi.
Par contre, vous pouvez promettre des iPads. CPF contre iPad, ça marche bien.
C'est à toi, là.
Le blitzscaling et l'hypercroissance ne font sens que dans une optique purement capitalistique, entre parenthèses faire fructifier un asset financier, entre parenthèses action, à des fins de revente, mais n'a jamais permis en soi de remporter un marché à long terme, tant il se produit au détriment en général de la qualité justement du produit, de l'expérience client, de la culture et du bien-être des salariés. Analogie qui me permet d'illustrer mon point, une progression en musculation ou dans n'importe quel sport sous stéroïdes. Tu vas extrêmement vite, tu vas extrêmement fort.
Au détriment de tes organes.
Au détriment de tes organes, de toute la structure qui va te permettre une longévité, qui va te permettre à terme de tenir.
Le muscle s'adapte en 3 semaines, en moyenne, alors que les tendons, les ligaments, il leur faut 11 mois.
Exactement.
Voilà.
Et le nombre de bodybuilders, si tu regardes, les bodybuilders, même les plus dopés, même les plus hauts niveaux, ceux qu'on fait Olympia, qui sont clairement des montagnes absolues de muscles, bah ceux qui ont eu la plus longue longévité, c'est ceux qui ont commencé à se doper le plus tard possible.
Ouais.
Et t'en as qui dépassent la cinquantaine et qui restent compétitifs la cinquantaine passée. Mmh. Je pense à Dexter Jackson par exemple. Ouais.
T'as vu l'état de Ronnie Coleman?
Ouais.
Il est pas en bon état. Hein. C'est tout juste s'il tient encore debout tout seul. Hein.
Exactement. Et lui avait un truc par contre avait un truc très égotique par rapport au gros poids, aux grosses perfs. Ouais. En fait, il s'est complètement flingué. Mais je pense t'en as par contre qui malgré leur potentiel ont commencé à se doper tellement tôt, tellement fort pour aller tellement vite. Ont tellement brûlé des étapes qu'en fait ils ont littéralement claqué ou alors leur carrière s'est terminée très tôt et l'analogie se tient parfaitement avec une boîte qui hyperscale. Faut pas oublier qu'une boîte et ça c'est quelque chose que j'observe et j'ai des échos très réguliers, mais une boîte qui remporte qui lève énormément d'argent et qui embauche 500 1000 personnes en une année ne le fait pas pour construire quelque chose de pérenne mais pour revendre. Ouais. Et c'est surtout des investisseurs qui veulent retirer leur mise incessamment sous peu. Ça se compte en années. Là où une boîte se construit, une vraie boîte se construit en décennies. C'est l'horizon de temps qu'il faut appliquer. Faut pas nourrir ce complexe-là par rapport à une boîte qui va blitzscale parce qu'elle le fait pas pour satisfaire un marché. Elle le fait pour valoriser un asset, comme j'ai dit.
Parce que tu fais de l'hypercroissance et en gros, soit t'as des investisseurs qui te rachètent, soit tu vas couler sous ton propre poids. L'hypercroissance n'est pas pérenne, elle peut pas tenir parce que l'adaptation ne peut pas avoir lieu assez vite et donc forcément ça va péter quelque part et ça peut péter de façon mortelle sauf si t'as revendu et que tu t'es barré de la boîte avant et c'est plus ton problème en fait.
Et tu parlais de l'impact réputationnel.
Ouais.
L'impact réputationnel. Tout à l'heure pour reprendre la métaphore avec le muscle, ta croissance musculaire n'est pérenne que si tes structures passives, donc tes ligaments, ton squelette, tiens.
Ah oui, c'est...
tes tendons.
Si tu as des tellement gros pecs et tellement grosses épaules que tu fais du développé couché tellement lourd que tes muscles y tiennent, mais que le problème c'est que, je sais pas moi, t'as un os du bras qui pète, ben c'est fini pour 6 mois, quoi, minimum.
Exactement.
Si c'est pas définitif, parce que c'est un truc qui se réparera jamais correctement.
Exactement. Et dans le business, tes tendons, tes ligaments, tes structures passives, c'est ton impact réputationnel, c'est ta culture.
Tes équipes, ta culture.
La qualité de ton produit.
Tes finances.
Ouais.
Etc.
Ouais. Et donc c'était juste pour mettre ça en avant. Mmh. Une boîte qui lève énormément d'argent, et on a beaucoup, on en a tous en tête, ne font pas ça pour faire les choses bien dans l'absolu, elles le font
pour aller vite
à des fins capitalistiques. Et souvent elles cravachent comme je sais pas quoi par la suite en relevant, et souvent c'est le rôle de la série C voire de la série D pour consolider
ouais. Exactement.
Des trucs et pour éviter de se péter la gueule.
J'ai l'impression de voir la même analogie, tu sais, avec les boxeurs ou les pratiquants de MMA qui cut à la fin en se déshydratant de façon ultra extrême juste pour tenir le bon poids sur la balance. Et en fait, ils se mettent en danger en allant très 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 loin, très vite, en espérant que ça passe. Et en fait, pour arriver sur le ring 10 kilos plus lourd que sur la balance, quoi.
Tu regardes Khabib Nurmagomedov, dans quel état il se met.
Ouais. J'avais vu aussi, je crois que c'était sur Netflix, une combattante de MMA qui vraiment, elle est dans son sauna portatif là, avant une pesée, elle est en train de pleurer, quoi. Elle tient plus debout, elle a des vertiges, enfin, elle a des signes de déshydratation avérée, elle risque de mourir à tout moment, quoi. En fait, l'ultra scaling, le blitz scaling, l'hypercroissance, c'est la même chose, quoi. C'est, tu te dis, peut-être que ça va passer, peut-être que ça va passer, peut-être que ça va passer. Hop, c'est bon, je suis racheté.
Ou alors je relève de l'argent.
Ouais.
Pour essayer d'éviter que ça se pète.
Mais combien de boîtes sont mortes faute de bridge?
Attends-toi.
Et justement, mon point va parfaitement bien avec ça. Le but, c'est d'être le dernier debout, pas le premier en haut de la montagne à disparaître. C'est un truc que je dis pas mal à mes équipes en ce moment. C'est pas grave si certains vont plus vite que nous. On sait ce que ça coûte. Nous, on va aller plus doucement, mais on sera là plus longtemps. C'est ok, je fais pas 0 à 10 millions, puis je disparais en un an. Et je vais faire 1 million par 1 million, petit à petit, je serai encore là dans 25 ans. Et des fois, c'est frustrant de voir des gens aux pratiques plus agressives que les tiennes faire beaucoup plus vite. Parce que t'as ce petit côté, c'est injuste. Moi, j'ai fait tout bien. Bah ouais, mais... Si t'as une vision long terme, tu t'en fous, en fait. Mais globalement, ouais, moi, c'est vraiment une philosophie du moment d'essayer de, quand je vois des gens aller beaucoup plus vite que moi, souffler, me rappeler que je joue pas au même jeu, que j'ai pas le même âge, que j'ai pas la même vie, que j'ai pas les mêmes contraintes, que j'ai pas leur quotidien, et peut-être que j'en veux pas. Et donc, si ces gens, ils vont beaucoup plus vite que moi, bah, peut-être que moi, je peux pas, peut-être que moi, je veux pas, peut-être que moi, je m'en fous, peut-être que je suis pas prêt à faire les mêmes sacrifices, ou peut-être que c'est moi qui ai raison, j'ai une vision beaucoup plus long terme qu'eux, c'est moi le meilleur, hein, mais peut-être pas aussi. Et c'est ok. Et c'est facile, quand on a 30, 40, 50 ans, de se comparer à ceux de 18 et à leur hypercroissance. Mais en fait, juste moi, à 18 ans, j'avais du Nesquik sur la moustache encore, en fait. Et aujourd'hui, j'ai plus la capacité physique et psychologique d'accélérer comme ils accélèrent. Je suis fatigué avant, tu vois. Donc en fait, au lieu de m'énerver, bon, je peux pas gagner au jeu de la vitesse, je vais essayer de gagner au jeu du long terme. Puis on verra.
Il y a Gaspard G, un youtubeur qui a fait une vidéo, un portrait sur Walt Disney. Et donc, il raconte en fait la création de l'Empire Walt Disney, etc. Mais si tu regardes, les 5-10 premières années ont été très compliquées pour lui, complètement calamiteuses. Et ça aurait été typiquement l'entrepreneur qui complexe de sa boîte sur LinkedIn. Et qui vient s'énerver contre ses salariés malgré lui parce que ça va pas assez vite. Mais en fait, il est comme tu l'as dit, en fait, il était le dernier debout, il est resté debout une année de plus. On parlait tout à l'heure de cette cyclique, en fait. Plus tu vas faire des révolutions, en fait, de ce cycle-là, des répétitions, plus tu vas accumuler de la data, tu vas accumuler de l'expérience, tu vas accumuler des connaissances qui vont s'accumuler. Et qui, par effet d'incrément, vont créer des exponentiels à terme. Le but, en fait, c'est d'être suffisamment... Enfin, le meilleur surfeur, je suis pas surfeur du tout, mais le meilleur surfeur, c'est aussi celui qui sait rester suffisamment longtemps dans l'eau pour choper la meilleure vague. Et si tu restes 4 heures dans l'eau, bah t'auras 4 fois plus de chances de choper les bonnes vagues, la bonne vague, que celui qui reste qu'une heure dans la flotte.
Si tu restes un temps infini dans l'eau, tu finiras forcément par choper une vague meilleure que le voisin.
C'est le principe, tu sais, c'est cette métaphore, cet exercice de pensée du singe qui, si tu lui donnes un clavier et lui fais taper de façon giga random sur le clavier pendant suffisamment longtemps, finira par te écrire toute l'œuvre de Shakespeare dans l'ordre à la lettre près. Bah ouais, le facteur temps, faut pas le sous-estimer, quoi. Et faut en faire un allié. J'enchaîne.
À toi.
J'ai partagé un petit c'est pas un hot take, c'est un petit framework dont je parle quasi quotidiennement aux boîtes, aux entrepreneurs qu'on accompagne, qui change énormément de choses dans la façon dont tu as présenté ton offre, dans ton message, dans ton copywriting. On a parlé tout à l'heure du framework input output outcome. C'est ce qui fractalement va se retrouver à toutes les échelles dans ta boîte, dans sa croissance, dans la façon dont elle gère ses opérations, et ainsi de suite. Et c'est comment les flux, en gros, vont se produire dans ta boîte. Mais en fait, c'est aussi un excellent framework de copywriting et un excellent framework product, parce que si t'arrives à définir les inputs de ton offre, de ton produit, les outputs, donc les résultats que ça génère, et les outcomes, l'impact financier, t'as tout gagné. Et donc moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre le temps d'aller investiguer auprès de vos clients, mettez en place du tracking, faites de la recherche utilisateur, avec pour objectif de définir l'input de votre offre, c'est-à-dire l'input du côté du client, quel budget il doit investir, quel temps il va devoir y consacrer, en gros, quelles ressources au global, en fait, il va devoir y mettre, vous, de votre côté, ce que vous y mettez, en termes de temps, en termes de features, et ainsi de suite. Ensuite, les outputs, l'impact métier, concrètement, c'est-à-dire sur quelle métrique vous allez avoir un impact et de combien. Donc, on va faire tel truc ensemble, au pluriel, ça va avoir tel impact mesurable sur tel sujet. Et après, l'outcome, vous allez quantifier l'impact moyen, avec idéalement des écarts types et tout, plus vous avez de précision, apporter de précision, mieux c'est, de l'argent que vous permettez de gagner, l'argent que vous évitez de perdre. Vous permettez d'économiser. Et là, en fait, vous avez une cartographie complète des tenants et des aboutissants de votre offre. C'est factuel, backé le plus possible, idéalement, par de la data, par des cas clients, etc. Mais ça, en fait, derrière, ça te donne une map monde totale de ce qu'est un copywriting efficace. Voilà ce qu'on va faire. Voilà les effets qu'on va générer. Voilà combien vous avez gagné à la fin. Et
c'est aussi un merveilleux moyen d'améliorer drastiquement ton produit. Nous, on l'a fait, ça. On a regardé nos meilleurs clients et nos pires clients en termes de résultats. On a regardé d'où ils partaient. On a regardé leurs actions précises, combien de temps ils y ont passé, comment ils ont été aidés chez nous en interne, par qui, sur quel sujet. Et on a regardé qu'est-ce qui sépare les meilleurs des autres. Ensuite, on a pris des actions des meilleurs et on les a fait appliquer aux moyens. Pas au pire, parce qu'il peut y avoir d'autres trucs en ligne de compte, mais aux moyens. Pour voir est-ce qu'il y avait une augmentation. Oui. Ok, donc on sait quelles actions ont vraiment le plus d'enjeux en termes de résultats produits chez nous. Donc maintenant, la nouvelle question qu'on doit se poser, c'est ces actions-là, est-ce que les pires, ils peuvent les exécuter tout de suite? Ou est-ce qu'il y a un sous-jacent qu'on n'a pas vu qui fait qu'ils sont bloqués et qu'ils n'arrivent pas à le faire? Et si oui, comment on le résout? Et en fait, en y allant comme ça de façon incrémentale, on arrive à améliorer le produit et les résultats produits de façon drastique.
Comment t'as fait ça?
En discutant avec les clients.
Okay.
Vraiment juste, t'as eu tant de résultats, ok, d'accord, c'est quoi le prix de ton offre? T'as fait quel contenu? Sur quel type d'audience? T'as combien de personnes qui te suivent? Tu les avais déjà avant? Combien t'en as gagné pendant le temps avec nous? À quel coaching t'allais le plus? Ça t'a aidé sur quoi? Vraiment de l'entretien quali-quanti à balle. Sur beaucoup de gens.
À quelle fréquence?
Nous, on a alors, on mesure les signaux faibles en permanence parce que toute l'équipe les relève et les remonte. Okay. Et surtout les customer care. Mais plus que ça, en fait, nous, il y a un questionnaire à l'entrée et tous les 3 mois et à la sortie de tous nos clients en permanence. Alors, 100% répondent pas, mais en général, les meilleurs et les pires répondent. Donc, donc ça nous donne pas mal d'infos, quoi.
Et tu discutes toi-même toujours perso avec tes clients?
Ouais, mais pas avec tous. Je vais discuter quand je fais les mini entretiens, témoignages, tu vois, pour notre chaîne YouTube, trucs comme ça, qui se fait sur la base du volontariat, on fait pas chier les gens. Mais du coup, en fait, j'ai toujours 10-15 minutes en off avant, 10-15 minutes en off après, plus le temps qu'on est enregistré, qui fait que je peux discuter avec les gens et me rendre compte de ce qui va pas, ce qui manque. Enfin, je le fais plus autant qu'avant, forcément. Et après, il y a certains produits où je suis encore très, très, très présent et je coach de façon hebdomadaire. Et d'autres où je suis plus éloigné, où je fais seulement des lives thématiques et tout. Il y a des endroits où le truc roule particulièrement bien et où je peux superviser, où je suis moins impliqué. Il y a des endroits où je suis encore très, très, très impliqué.
Prenez le temps d'implémenter ce framework, de l'exécuter parce que, enfin, c'est game changer de fou. Ouais. Et les zones d'ombre sont justement de très bonnes boussoles pour identifier là où vous avez des angles morts dans votre produit.
YouTube part en couille, Samsung l'a cassé et toutes les chaînes business sont en train de faire pareil.
Alors, Samsung, on va le présenter très succinctement.
C'est un très 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 gros bodybuilder.
Très jeune.
Très jeune.
21 ans.
Qui fait des contenus qui ne devraient pas marcher sur YouTube. Il fait des face caméra, plus des vidéos dans sa voiture, plus des vidéos d'entraînement, de 45 à 60 minutes, quotidien.
Vraiment quotidien.
Quotidien, quotidien.
Il n'y a pas une journée. Hein.
Dont le titre est, si on devait le traduire, prise de masse, séance 1 sur 62, le dos. Et ce truc fait des millions de vues. Et ça n'a aucun sens. Et c'est... Même en post-rationalisation, c'est dur de trouver ce qui, pourquoi. Mais par contre, la tendance est en train de s'étendre à tout YouTube et à toutes les chaînes business. C'est très drôle à observer.
Moi, parce que j'ai écrit un truc là-dessus, je te le lis juste après, mais un des sous-jacents que j'ai pas mis justement dans ce petit texte, c'est le principe de domesticité cosy. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'identifie. Enfin, c'est un des facteurs. Mais en gros, le domesticité cosy, c'est l'effet Twitch. C'est l'effet, c'était chez toi.
Girl next door, quoi.
Exactement. T'es chez toi, tu vas pas regarder du MrBeast, tu vas regarder quelqu'un qui pareil est devant son ordi en train de te parler d'un sujet.
T'as des vidéos de gens qui mangent pendant 2 heures face caméra et des gens qui mangent seuls s'assoient en face d'eux et les regardent manger pour avoir l'impression de manger avec quelqu'un.
Le mukbang classique cas de la domesticité cosy. Et en fait, lui, c'est exactement ça. Mm. Plus un facteur
freak.
Un facteur freak.
Ouais.
Effet un peu grand frère.
S'il avait 20 kilos de muscles en moins.
Ah
personne ne regarderait.
Ah non, mais clairement. Et la polarité, il y a un effet un peu de Joe Rogan de la singularité.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est un fric, mais qui a une approche très iconoclaste de la musculation. Il est il est pas anti-science, mais c'est il promeut la bro-science, l'ego lifting, le fait de soulever le plus lourd possible au détriment de ta technique.
Fais du squat moche le plus lourd possible, tu prendras des jambes, quoi.
Exactement. Et donc en fait, il vient vraiment aux antipodes d'une doxa.
Ouais.
Il incarne ça. Il incarne moi justement, je vais aller le plus vite possible et j'en ai rien à faire. Il incarne le moi une calorie est une calorie donc je mange n'importe quoi. Et par définition en fait, il est clivant sans chercher le clash. C'est ça qui est fou, c'est que il incarne un clivage qu'il ne recherche même pas et il y a un côté justement fascinant.
Je trouve certains aspects de ça dangereux. Et on va prendre Sam Soulek, le cas des calories, mais du coup, je connais l'analogie que je veux faire avec le business. T'as des débutants qui arrivent et qui voient ce gros monstre tout sec et tout fort bouffer des pizzas, des kebabs et des burgers et dire une calorie, c'est une calorie, rien à foutre. Sauf que le sous-jacent non dit implicite, c'est les stéroïdes. Et tout le monde n'a pas conscience. Et donc, t'as des gens qui vont faire n'importe quoi avec leur santé... et pas comprendre pourquoi ils ont pas d'abdos et pourquoi ils sont pas énormes. De l'autre côté, en business, t'as des gens qui vont avoir une acquisition front-end dégueulasse et dire à tout le monde de faire pareil, sauf que derrière, ils ont un écosystème sales, produit et back-end qui est ultra solide, qui font qu'ils arrivent à rentabiliser leur acquisition dégueu, parce que c'est pas, ils s'en foutent, ils ont une force autre part. Et si tu les copies, t'es mort. Et moi, j'ai eu les infos un peu en off d'un coach un peu connu, qui, sur son acquisition, à 30 jours, il a un return on ad spend de 0,3. C'est-à-dire que si tu fais comme lui, tu coules ta boîte en 2 mois à cause de l'effet ciseau et des problèmes de BFR. Besoin en fond de roulement. Sauf que lui, il a un back-end tellement solide qu'il s'en fout, en fait. Il finit avec un ROI de 12. Si tu le copies, t'es mort. Et ce phénomène de Girl Next Door sur YouTube, je le trouve aussi un peu dangereux parce qu'on va copier des gens en les trouvant cool, sans voir ce qui se cache derrière. Et c'est dangereux en business, c'est dangereux dans la santé, c'est dangereux dans tous les domaines comme ça, quoi.
De toute façon, la copie, exactement comme pour le podcast business, hein,
ouais.
La copie sans compréhension des sous-jacents est toujours extrêmement, extrêmement dangereux. Mm. C'est pour ça que tous les youtubeurs qui cherchent à copier MrBeast finissent par faire un ersatz de MrBeast en 15 fois moins bien et avec 150 fois moins de vues. c'est pas difficile à faire. Et tous ceux qui essaient d'imiter Sam Sulek, en fait, ne sont pas Sam Sulek par définition. Mmh. Mais justement, en fait, il a trouvé sa singularité. Et en fait, il fait son truc. Mmh. Il fait son truc à haute fréquence. Et finalement, tu regardes, il a absolument tout compris. Mmh. Du contenu très facile à produire.
Oui.
Avec le moins de montage possible, donc une logistique juste.
C'est vraiment genre micro sur sa casquette, ouais, caméra dans sa voiture, quoi.
Ouais, vraiment.
Rien à foutre, quoi.
C'est, donc logistiquement, ça tient, ça, là, pour le coup, ça scale comme pas possible.
Ouais.
Il peut en produire en masse. Et voilà, une vraie proximité, une vraie authenticité avec son audience. Il cherche pas le clash, il fait ses bails. Mais comme tu l'as dit, il y a, par contre, effectivement, des sujets dont il se cache pas. Mais qui font que son succès dans son contexte et sur son credo n'est pas reproductible.
Mmh.
Par contre 0,3 de ROAS, c'est hallucinant.
Et tu sais que moi il y a des gens qui ont essayé de copier mes ads et on avait fait par le passé un épisode ensemble où je disais comment je les faisais. Sauf que pareil en fait, j'ai une gestion de mon BFR qui est fait pour que je sais que je suis quasi pas rentable à 90 jours moins. Il y a tout le monde qui dit oui, c'est un problème. Non, ça me permet de brasser très, 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 très large sur le marché et de rentabiliser en créant de la confiance sur le très, très, très long terme. Je plains vraiment les gens qui ont essayé de copier nos pubs sans comprendre le back-end qui est derrière. Parce qu'ils vont attirer que des leads qui convertissent pas. Et c'est le problème des atypicités de marché. Elles sont souvent très copiées et très dangereuses. Parce que si t'as pas tout le package, ça marche pas.
Principe de la périssabilité, en fait, conceptuellement, le principe de hack universel est complètement pété.
Mm.
Pour moi, c'est un non-sens. Je vois pas la logique derrière. Un hack est par définition contextuel. Tu vas trouver un truc qui...
Pour une personne dans un cas précis.
Exactement. Mais par contre, le reproduire n'a absolument aucun sens. Mm. Tu peux t'inspirer, tu peux le tester, mais c'est une itération. Ça reste une expérimentation. Et il y a toutes les chances que ça fonctionne pas pour toi, ou alors pas dans la même amplitude.
Yeah, je suis d'accord.
Et donc là, on revient à ce style de false claim, quoi. J'ai remarqué que la majorité des entrepreneurs galèrent pour une raison dramatique, ils réfléchissent en salariés.
Mm.
En voici deux symptômes très courants. Un, ils vivent dans l'illusion de ce que j'appelle le N+1 fantôme. Ils se comportent comme si un supérieur allait leur dicter la marche à suivre et leurs priorités. Ils attendent validation, approbation et autorisation d'une hiérarchie dont ils sont désormais à la tête. Deux, leur pensée est en stock au lieu d'être en flux. Chaque action est un livrable voué à recevoir l'approbation ou la réprimande du N+1 fantôme au lieu d'être vu comme une partie d'un flot continu de tentatives d'expérience. Les conséquences sur leur productivité, leur confiance en eux et leurs résultats sont déplorables.
Est-ce que c'est pas aussi lié à tous ces gens qui se retrouvent entrepreneurs sans faire exprès? Parce que ils ont lancé un truc sur les internets en se disant il y a 3 personnes qui ont trouvé ça cool et puis là il y en a 3000 et ils se retrouvent à la tête d'une boîte sans faire exprès. Ils n'étaient pas voués à être là. Moi, j'en connais, hein. J'en ai dans mon entourage, qui se retrouve à la tête de boîte de 80 personnes, parce qu'il y a un associé, un investisseur, un truc qui a poussé jusque-là. Et à un moment, cette personne se retire, et la personne est là, oh là là, qu'est-ce que je fais là, moi? C'était pas l'idée. Et j'en connais plein comme ça.
T'as aussi beaucoup de salariés qui se lancent parce que.
Ah oui, la quête de la liberté, quoi.
Ouais, exactement, parce que mon poste, notre tech précédente, qui se lance parce que justement appel au voyage romantique de l'entrepreneuriat, et qui en fait sont complètement mus. C'est l'éléphant qui a vécu toute sa vie enchaîné et qui continue de se comporter même libéré,
comme s'il a une ficelle, avec une chaîne en plastique, quoi.
Exactement. Et tu te retrouves avec des entrepreneurs, et j'en vois quotidiennement, qui, tu le sens vraiment, ne se comportent absolument pas en dirigeant, en souverain dans leur boîte.
Mmh.
Et qui vont donc s'inventer des N+1, ériger des icônes qui vont leur permettre de se comporter, de se rassurer, comme s'ils étaient salariés. C'est-à-dire utiliser le temps avec un T majuscule comme N+1. J'ai pas le temps. Par définition, c'est ta boîte, donc le temps, en fait, tu décides de le prendre ou pas. C'est une histoire de gestion de tes priorités.
Très ouais, bien. C'est ça. J'ai priorisé différemment mes tâches. J'ai pas le temps. En
fait. Exactement. Il y a pas Chronos, le dieu du temps, qui va décider de te donner du temps ou pas et de te l'accorder. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est quelque chose. Tu comprends que ces constructions mentales deviennent ces pensées militantes. Mais ces pensées militantes découlent justement de ces constructions mentales à la base. Et en fait, le premier point en tant qu'entrepreneur, c'est de faire sa mue et d'accepter que t'es tout seul dans ton ratio.
Principe de responsabilité.
Voilà. Mais t'es tout seul dans ton ratio.
Tout ce qui arrive est ma faute.
C'est de faire le deuil, quoi. C'est de faire le deuil de cette hiérarchie très rassurante de, voilà, on va me dire de faire un truc, je vais faire le truc. Et puis après, on va me dire si c'est bien ou pas. Mais dans tous les cas, en fait, c'est pas ma responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est de faire ce qu'on me demande de faire dans les temps impartis. Mais en fait, quand t'es entrepreneur, on s'en fout que ce que t'es fait à l'instant T, une fois, fonctionne. L'important, ce qui va compter, c'est de le refaire tous les jours. Donc, cette logique de flux, c'est de le faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ad vitam aeternam. Moi, c'est pas parce que hier, j'ai fait un excellent call de user research que ma boîte va décoller.
C'est sortir de la dichotomie bien, pas bien. C'est à quel point c'est bien, à quel point c'est pas bien.
Et à quel point c'est un petit peu un petit peu mieux ou un petit peu moins bien que la fois précédente.
C'est comme, je sais pas si t'as déjà vécu ça, tu sais, t'écris une page de vente ou un email, un truc. Et au niveau copywriting, c'est un peu stylé, tu vois, t'es content, t'as mis les bons trucs et tout. Là, t'as toujours les copains copywriters qui viennent te dire à quel point c'est extraordinaire. Et tu peux vite tomber là-dedans de, ouais, tous les copies m'ont dit que j'avais fait une page extra. Est-ce que ça vend? Oui, non. Point. En fait, quand on vient de te dire que c'est bien, on s'en fout. Quel est le but? Si le but n'est pas respecté, qu'on t'ait fait une tape sur la tête pour te dire que c'était bien, ça n'a aucun intérêt. Et c'est la différence, justement, tu vois. En tant qu'entrepreneur, t'es obligé de te dire est-ce que ça a vendu. Un salarié, c'est j'ai bien respecté l'exercice qu'on m'a demandé de faire.
Exactement.
Parce que je suis pas responsable de ce qui se passe après.
Exactement. Donc, voilà. Méfiance. Et je pense que, très peu de gens sont vraiment exempts du N+1 fantôme. On a tous des N+1 fantômes autour de nous. Je pense que c'est un modèle mental. Aujourd'hui, c'est quoi mon N+1 fantôme? Actuellement. Et ouais, solitude ratio.
Si ton time to sell est inférieur à 30 jours, soit tu es dans le business opportunity plus CPF, soit tu es pas réglo.
Qu'est-ce que t'entends par là?
Alors, time to sell, le moment entre le lead qui te découvre et l'achat. C'est ce truc-là, j'ai parti de un truc que j'ai lu chez Tyler Welch qui disait « Si ton time to sell est inférieur à 120 jours, t'es un escroc ». Alors forcément, il fait du putaclic. Et du coup, moi, j'essaie de raffiner un peu cette pensée en disant, il y a des marchés, business opportunity, CPF, etc., où c'est normal qu'il y ait un time to sell rapide parce qu'il y a certains types d'enjeux, certaines façons d'acheter et tout. Mais quand t'es pas dans ces marchés-là, c'est une feature et non un bug d'avoir un time to sell très long. Et ça devrait être comme ça. Et on devrait apprendre à gérer nos BFR et nos boîtes en tenant compte de cette donnée qui est inhérente à nos métiers. Quand tu vends un truc très cher, c'est normal que les gens n'achètent pas en 3 jours.
C'est même souhaitable. Je me suis rendu compte, enfin vraiment, il y a une corrélation quand même assez prononcée, avec un bon coef, quoi, entre la durée, justement le time to sell, à quel point tu vas mettre longtemps à vendre, et la qualité de la collab par la suite. Ouais,
tellement.
Mais
tellement.
Vraiment.
Les gens qui achètent trop vite, ils ont des attentes, mais pas les bonnes. Jamais les bonnes.
Dans ce grand framework, tu sais, cette grande tension entre émotion et logique dans ta prise de décision, plus longtemps tu vas prendre ta décision, plus tu auras le temps de sous-peser le pour et le contre et d'être dans une analyse logique, pragmatique des données qui te sont données. Et donc, plus tu auras de chances de prendre une décision qui va être rationnelle, rassurée et rassurante au final. Là où tu te précipites, achat compulsif, émotion. Et donc, plus le prospect, même sur du high ticket, va acheter vite, plus par définition,
il va falloir lui revendre l'idée pendant un mois ensuite. C'est très fatigant, ça.
Lui revendre l'idée, et puis tu te rends compte qu'en fait, il n'est pas venu pour les bonnes raisons.
Il a besoin d'être sauvé.
Il a besoin d'être sauvé. Beaucoup aussi, et ça, on l'a observé, recherche, et ça, il y a un vrai marché. On parlait justement du N+1 fantôme. Il y a un énorme marché sous-jacent, pas quantifié.
Je cherche à ce qu'on me dise quoi faire.
Ouais, et le marché de la délégation de la responsabilité.
Ouais. C'est un peu...
Oh là là, mais...
Qu'on le veuille ou pas, c'est un peu notre métier, ça, quand même.
Ouais, mais c'est un sous-segment de marché du service.
Ouais.
Mais il faudrait le quantifier. Mais le nombre de milliards qui sont dépensés chaque année pour juste se dire, OK, ça, ce sujet-là, je vais payer quelqu'un pour porter le flambeau et porter toute la charge de la responsabilité, toute la culpabilité de ce dysfonctionnement-là au sein de ma boîte. Mais c'est monstrueux. Mmh. Et quelqu'un qui vient acheter rapidement, il y a de fortes chances qu'il soit dans ce marché-là, en fait.
Ouais.
Et il faut s'en méfier parce que les collaborations derrière sont plutôt douloureuses, en général.
Soit t'as structuré ta boîte pour des gens comme ça et tu t'es complètement câblé en interne pour ça et tu sais les gérer. Soit tu t'y attendais pas et tu vas en souffrir.
Et t'avais une deuxième partie, c'était CPF.
C'est normal que les gens achètent très très vite avec du CPF. C'est pas leur argent. Alors il y a tout le monde, toujours quelqu'un qui vient me dire « Oui, mais en fait, c'est les salariés qui cotisent, donc si c'est leur argent, non. » En fait, ils voient pas la cotisation passer, ils la sentent pas. C'est de l'argent de formation qui dort sur un compte formation obscur. Personne s'en sert jamais ou comprend comment ça marche.
Ils peuvent pas l'utiliser pour quoi que ce soit d'autre.
Ouais, ils peuvent pas l'utiliser pour quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est pas leur argent. En fait, c'est de l'argent qui peut être utilisé pour ça dans un certain contexte ou perdu à jamais.
Ça crée des crédits, d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. Ça crée des gens pas engagés du tout. Et... En plus, ça crée des complexités administratives pour l'entreprise. Deux, il va falloir faire pointer les gens, leur délivrer un certain nombre d'heures, d'une certaine façon, avec certains livrables. S'ils cochent pas, je suis pas payé. Je suis pas une administration. J'ai pas envie de travailler comme ça. Je connais de très belles boîtes qui fonctionnent là-dessus et qui ont un gros pôle administratif. Et je suis très content qu'ils existent parce que je pense qu'ils aident vraiment des gens. Moi, je peux pas. Je pense qu'on me démarche après une fois par semaine pour me faire faire des montages CPF. Et je réponds, je vois la même chose. Non, je le prends pas. Non, je ne veux pas. Laisse-moi tranquille. Je ne prends pas l'argent de l'État. C'est l'argent du salarié. Non, c'est l'argent de l'État. Je ne prends pas l'argent de l'État parce que je ne veux pas avoir de responsabilité envers l'État de devoir me justifier de ça. C'est tout. Je ne développe pas ma boîte sur une anomalie administrative et juridique. Je la développe sur autre chose. Et pareil, c'est pas bien mal, tu vois. C'est juste, moi, je fais autrement.
La croyance en un monde juste est sans doute le pire biais cognitif dont peut souffrir un entrepreneur. Exemple. Ouais. Je comprends pas, j'ai fait X et j'ai pas encore résultat Y.
C'est pas juste.
C'est pas juste. C'est pas parce qu'une action a été faite que le monde nous doit quoi que ce soit.
Mmh. Je sais pas si tu l'as vécu, ça. Moi, c'est une des premières grandes réalisations. C'est pas censé être juste, en fait. Il y a des gens qui font tout mal, qui sont des connards, qui escroquent les autres. Qui se comportent comme des ordures finies, et tu te dis le karma va les rattraper, et ben non. Et plus vite tu lâches prise là-dessus et t'essayes pas de dire c'est bien, c'est pas bien, ils sont méchants, ils sont gentils, moi je suis gentil, moi je suis mieux qu'eux, plus tu ignores juste tout ça et te dis ça fait partie du marché, next, plus tu peux avancer professionnellement.
Mon prof d'anglais au lycée, monsieur Goodzen, qui disait « Life is unfair, look at you ». C'était un bon punchliner.
Je crois que t'as un épisode de Doctor House aussi, à un moment où il y a une punchline comme ça, qui fait « Vous vouliez un monde juste, vous êtes trompé de monde, de pays, d'espèce. » Et c'est ça, en fait. Ouais, c'est pas juste. Bah non, mais c'est pas censé l'être, en fait. Qui a décrété que ça devait être juste? C'est de la pensée magique, quoi.
C'est de la pensée magique. Ça reste une narrative, hein.
Ouais.
Ça reste une narrative. Et ça boucle avec cette idée de N plus 1 fantôme. Ça fait partie des narratives qui, en fait, ouais, te rassurent. Le N plus 1 fantôme, il va te dire si c'est bien, si c'est pas bien.
Ouais.
La justice, elle va te dire si c'est bien, si c'est pas bien. Alors, on parle pas de la justice juridique qui est absolument nécessaire. Là, on parle de la justice métaphysique.
Ouais, la justice divine, quoi.
Ouais. Qui va faire que, de façon très karmique, parce que tu fais un truc que tu juges bien selon ton propre prisme, les choses vont... Non, de toute façon, tout est extrêmement chaotique.
C'est plus sale que ça encore. C'est vu que les riches, c'est mal, et que moi, je suis gentil, ça justifie que je sois pauvre parce que je fais pas les méchantes actions des riches. Et au lieu de casser cette dichotomie et de se rendre compte que bien, mal, c'est plus compliqué que ça, et qu'en fait, ça se trouve, c'est la bonne action à faire pour avoir des résultats, et en fait, on s'en fout, il n'y a pas de bien ou mal, ça compte pas. T'as ce truc de l'autre, il est méchant, moi, je suis gentil, donc c'est normal que. C'est parce que le monde est injuste que j'ai pas les résultats que je veux. Non, c'est parce que t'as pas fait ce qu'il fallait, point. La justice divine ne rentre pas en ligne de compte.
Pour reprendre la phrase, hein, mais c'est quelque chose, je pense que t'entends toutes les semaines.
Mm.
Je comprends pas, j'ai fait ce truc. J'ai pas encore le résultat.
Essaye autre chose.
Essaye autre chose. Tu l'as pas bien fait. Tu l'as pas assez fait. Donne-toi le temps.
Non, mais ça, je connais déjà, j'ai déjà essayé. Si tu n'as pas eu les résultats, c'est que tu as mal essayé, petit scarabée.
Moi, c'est, je commence tous les accompagnements. À chaque fois, on a un call d'onboarding. On va se calmer avec l'anglicisme. On a un appel pour accueillir tous les nouveaux clients tous les mois que j'anime. En fait, je lâche des parpaings pendant une heure. Justement, aller casser un certain nombre de pensées magiques comme ça et de barrières mentales.
On va réessayer tout ce que vous avez déjà fait qui n'a pas marché.
Et c'est un petit peu ce que j'ai tendance à dire. Et je leur dis, voilà, par exemple, LinkedIn, la prospection LinkedIn. Pour tous ceux qui se posent la question, est-ce que LinkedIn, ça fonctionne pour moi? Si vous êtes en B2B, oui, LinkedIn, ça va marcher pour vous. La question, c'est pas est-ce que, c'est comment et quand. C'est tout. Mais il n'y a pas une boîte en B2B dans le monde entier qui ne peut pas générer du business de façon substantielle avec LinkedIn et en faire un vrai canal d'acquisition. La question, c'est pas une question d'espérance, c'est une question de maîtrise et de magnitude d'exploitation du canal. C'est tout. Donc là, rassurez-vous, oui, LinkedIn, c'est fait pour vous. Donc arrêtez de vous poser ces questions parasites. La tendance à se poser de mauvaises questions en entrepreneuriat est juste affolante.
Oui, mais moi je.
Ouais.
Et là, tu sais exactement pourquoi la personne est là. Les clients les plus difficiles, c'est ceux qui pensent qu'ils sont un cas particulier, alors qu'ils sont une généralité.
Effet snowflake.
Ouais, parce que on répète aux gens que c'est des petits flocons de neige uniques depuis toujours, et en fait, ils ont pas compris que eux, en tant qu'individus, ils étaient peut-être uniques, mais que leurs problèmes, en fait, on les avait vus 357 000 fois.
Et c'est super rassurant.
Et c'est, moi, je trouve ça très cool que mes problématiques soient pas du tout uniques et qu'elles aient déjà été traitées, hein. Je trouve ça me rassure, hein. J'ai pas besoin d'être unique dans mes problèmes, hein.
Mais tu parlais d'Aïsiev tout à l'heure qui est venu, il lâche des exemples, des situations qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on vit dans la boîte, et c'est ce qu'on s'est dit avec Jules, mon cofondateur. Mais en fait, c'est trop bien, c'est rassurant de fou,
ouais,
de pas se sentir seul.
Enfin, tout le monde vit la même chose.
Tout le monde, mais c'est génial. Ça veut dire que si tout le monde vit la même chose, c'est-à-dire que plein de gens ont réussi à résoudre le problème et ils vont pouvoir nous aider à résoudre ce problème. C'est affolant de fou de se retrouver à la tête d'une chaîne et de pas savoir où tu vas.
Ouais. De ouf. J'avais un call avec un client il y a quelques mois de ça, qui me dit. J'ai un problème en ce moment avec tel truc. Et là, je le coupe. Je fais, ah, t'as ce problème-là, donc tu te dis ça, donc tu te dis ça, donc tu te dis ça, donc tu commences à ressentir ça, donc ton quotidien, il se passe ça, donc tes comportements à titre personnel pour compenser, c'est cela, etc. Il me regarde, il me fait, ah. C'est, ah, je suis pas tout seul, quoi. C'est, je suis pas fou, tout le monde vit le même truc. Ça fait du bien. Hein. Tu te dis, je suis pas tout seul. On a tous les mêmes problèmes. C'est pour ça qu'on se fait tous accompagner par des consultants, des coachs, des mentors. T'appelles ça comment tu veux, on s'en fout, tu vois. Parce qu'on a tous exactement le même problème. C'est, si quelqu'un l'a déjà résolu, pourquoi tu vas te faire chier à chercher tout seul pendant 3 ans, quoi?
C'est égo.
Ouais, t'es ouf. Je vais encore essayer seul. Bon, tu vas perdre 6 mois, quoi.
Je vais y arriver.
Tu vas perdre 6 mois et quand tu seras dans une situation beaucoup plus critique, tu vas venir, tu vas me demander de te sauver. Sauf que moi, si je peux plus te sauver, c'est trop tard. Parce que en 6 mois, je pouvais faire des trucs. En 2 semaines, je peux pas.
Et ça, vraiment, c'est des situations qu'on rencontre toutes les semaines.
Ouais, complètement.
Des prospects qui nous ont dit, de ton côté aussi, hein, qui nous ont dit exactement ça. Non, mais je vais essayer tout seul, on se reparle dans 6 mois.
Ouais. Et après, c'est trop critique.
Mais, le nombre de prospects qu'on a dû refuser à ce moment-là.
Nous aussi.
Mais parce que juste, c'est, ouais, comme tu l'as dit.
C'est, ok, ça y est, je suis prêt à passer à l'action avec vous. Par contre, si j'ai pas des résultats dans 1 mois, je ferme. Moi, je peux plus rien faire pour toi. Parce qu'en fait, peut-être qu'en 1 mois, on va réussir à faire des trucs. Mais peut-être pas, en fait. Et j'en sais rien. Et c'est pour ça que je prends 6 mois d'habitude.
Et j'ai pas envie que tu me délègues la charge de ta responsabilité.
Exactement.
De tes indécisions. Donc, ouais. Je ne veux pas. On retombe dans le marché de la délégation de responsabilité. Le nombre d'entrepreneurs, de prospects qui, tu le sens, en fait, viennent chercher un bouc émissaire pour expliquer leur faillite à venir.
Ouais. Moi, je répète toujours cette même phrase, c'est attention, confond pas. Moi, je suis pas pompier, je sauve pas les gens. Et si nos programmes, ils sont sur un temps long, je crois que c'est votre cas aussi, hein, bah, c'est parce qu'en fait, il faut un temps long pour parer à toutes les éventualités possibles. Ça veut pas dire que ça peut pas aller vite. Ça veut dire que si on veut augmenter la marge de sécurité, il faut un temps long. Point. Donc, quand tu viens dans l'urgence, tu viens trop tard.
Non, on fait cette analogie de... on se définit de plus en plus comme un sport-études pour entrepreneurs. En fait, on n'est pas là pour... On n'est pas des chirurgiens cardiaques, on n'est pas là pour sauver des vies, ouais. On est là pour prendre des gens qui ont un potentiel et leur faire exposer ce potentiel. Mais tu fais pas exposer un potentiel avec deux cures de stéro de deux mois. Non, non, ça marche pas comme ça. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est de la sueur, c'est de la douleur.
Arrêter de filer de la publicité et des tunnels aux débutants, c'est criminel. La publicité est un effet de levier pour augmenter le volume. Les tunnels sont l'outil, le système d'exploitation qui permet d'absorber le volume. Si tu sais pas ce que tu fais, si t'as pas de product market fit, si t'as pas une offre qui est prouvée, t'as pas besoin de volume, donc t'as pas besoin d'effet de levier, donc t'as pas besoin d'écosystème pour absorber du volume, donc tu vas juste cramer de l'argent pour rien. Et pour moi, la pub et les tunnels sont un merveilleux outil de scaling, nécessaire d'ailleurs, très compliqué de scaler sans. Mais tu ne files pas une Lamborghini Urus à un gamin de 8 ans sans permis qui doit aller chercher le pain à la boulangerie. À quoi ça sert? C'est si tu veux traverser un champ, il faut un tracteur. Si t'as 8 ans que tu veux chercher le pain, on prend un tricycle. Si tu veux aller faire la course sur circuit, c'est mieux d'avoir une Lambo. Et ben en fait, la pub et les tunnels, c'est génial comme outil, mais pas pour tout le monde, pas partout, pas tout le temps, et surtout pas pour des débutants qui partent de zéro et qui savent pas quoi faire avec.
Et quel est le bon moment pour toi pour commencer la pub?
Ton système de livraison peut absorber plus de clients, ton système de vente va pas péter sous le poids de la demande, et tu as un début de product market fit que tu veux tester en augmentant le volume, en augmentant la voilure. Là, c'est bon de commencer à tester.
Oui, mais moi, c'est pas pareil. Non, mais oui, mais comment tu fais alors pour aller chercher tes premiers clients et aller chercher ton PMF?
Go to market, tu prends un réseau social où tu penses qu'il y a tes clients, tu vas connecter avec eux, tu vas leur envoyer des DM, tu vas créer du contenu pour les exposer à toi et à tes idées, tu vas papoter avec eux et tu vas voir si ça a du sens. Et à un moment, de toute façon, quand ils vont te dire qu'ils ont le problème A, qui cherchent à le résoudre, qui sont prêts à payer pour que ça aille plus vite et que toi tu leur dis j'ai solution B qui résout exactement ça, soit ils achètent et t'as une preuve de quelque chose, soit ils en veulent pas et c'est que t'avais tort et plus de trafic n'aurait servi à rien.
T'es en train de me dire que ça sert à rien de scaler les trois premiers mois?
Les trois premières années.
Attends, je vais pas devenir riche en faisant de la pub Facebook.
Et non, à mon grand regret, mais surtout et les coûts d'acquisition actuellement, t'as intérêt à être solide. Parce que la pub de 2024, c'est pas la pub de 2015. Moi, je suis transparent sur ces chiffres-là. Dans nos métiers actuellement, un coût d'acquisition de clients sain, c'est entre 1000 et 2000 euros. Alors, selon ce que tu vends, des fois c'est 500, des fois c'est 2000. Hein, donc, ça veut dire que de toute façon, si t'es pas capable d'absorber ça, le coût par call réservé moyen, il est, selon les industries, il va aller de 50 à 250. Tu closes à 10 à 20% sur trafic froid, fais tes calculs. Donc déjà, en fait, si ton entreprise elle est pas câblée pour supporter ce genre de coût, déjà la pub, ça, t'es mort.
Et le ROS, il doit être de combien? ROS, c'est retour sur publicité dépensée.
Ouais, retour sur publicité dépensée. Alors, ça dépend complètement de ton type de boîte. Hein. Nous, on regarde pas tellement le ROS court terme. Mais du coup, on a une gestion du BFR et de la trésor qui est très pointue pour pas se faire dépasser par un effet ciseau. Parce qu'on encaisse très tard par rapport à ce qu'on dépense. Mais du coup, on a des ROAS très élevés. La plupart des gens ils disent qu'un ROAS sain, c'est 1,2, 1,3 à 30 jours. Après, moi, je considère que ce que nous, on fait, c'est un peu particulier, donc je peux pas le conseiller aux autres. Mais si tu arrives à avoir 1,2, 1,3 à 30 jours, tu es à minima break-even, donc à l'équilibre financier entre ce qui sort et ce qui rentre. Et donc, tu peux commencer à continuer à accélérer, travailler ensuite ton back-end et ta LTV, Lifetime Value, pour développer ton entreprise.
Qu'est-ce que tu appelles l'effet ciseau?
L'effet ciseau, c'est quand tu dépenses plus vite que tu n'encaisses. Bien connu des agences, bien connu des infopreneurs et coachs qui font de la pub. C'est-à-dire que je dépense au jour 1, j'encaisse au jour 90. Si j'ai pas la trésor disponible pour absorber ce coût, je suis mort. La version agence, c'est j'ai un nouveau contrat avec un client jour 1, je dois recruter. Les gens me payent à fin de presta plus 30 jours, je dois avancer 60 jours de salaire d'équipe. Est-ce que j'ai la trésor pour, sinon je suis mort. Et c'est comme ça que je te retrouve avec des boîtes qui coulent, non pas parce que c'était pas rentable, mais par problème de solvabilité.
C'est là que tu vas faire des leviers, c'est là que tu vas affiner ta trésor, ouais. C'est là que bosser avec un DAF, C'est intéressant.
Ouais, il y a aussi maintenant, aujourd'hui, il y a plein de, d'organismes financiers qui financent du BFR. Donc, tu leur dis, ben, regardez, j'ai un client qui a signé pour 500 000, mais j'ai besoin de pouvoir assumer 250 000 de coûts. Ils vont te dire, OK, ben, on vous prête 250 000 pour assumer ces coûts-là. Par contre, on vous prend 10 000 de marge sur le contrat. T'as des banques qui jouent à ça aussi. Enfin, il y a plein de trucs qui sont possibles. Facebook, aujourd'hui, en ads, te permet de payer à 30 jours. Tu peux avoir une Amex qui permet de payer à 30 jours. Enfin, il y a plein de trucs qui permettent de gérer ton BFR, quoi.
C'est deux métriques à vraiment à surveiller, mais de façon hebdomadaire, selon moi. C'est à quelle vitesse tu payes ton moyen de paiement de tes prestataires, de tes prestations, de tes salaires et ainsi de suite, et ton moyen d'encaissement. Si t'as un décalage, tu sais que tu vas avoir un BFR à financer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est quelque chose que tu vas devoir surveiller.
Si ouais, par contre, je crois doucement, moi. C'est pour ça que j'ai de la croissance lente. Parce qu'en fait, si je fais une croissance trop rapide, j'ai un risque trop important.
Et tu vas avoir une distension trop élevée entre les deux. L'idéal, c'est que ce soit inversé. Là, tu fais de la trésorerie tous les mois. Là, c'est l'idéal. Deuxième cas de figure, c'est très corrélé, c'est équivalent. Donc là, en fait, t'as ton cash flow est flat, il est sain. Par contre, à partir du moment où ça commence à se décorréler, là, là, faut trouver des solutions. Et par contre, si là, t'es sur des indices de 1 pour 2, là, ça commence à devenir chaud. Ça commence à devenir problématique. Et nous, on est exactement dans cette situation-là. Et donc, nous, on sait que c'est une vraie gymnastique et que, on doit trouver des solutions pour faire financer ce BFR.
Ouais, bien sûr.
Et, ou alors, être très, très chaud sur les encaissements. Et donc, c'est pour ça qu'on a musclé le jeu sur les encaissements parce que c'était juste nécessaire, quoi. Alors, ensuite. Tropisme culturel. En France, on a très souvent tendance à se demander pourquoi. Aux États-Unis, on se demande plutôt et alors. L'un prédispose à l'explication d'un phénomène, l'autre à son exploitation.
C'est vrai que les Français, ils veulent toujours faire des grandes réflexions sur. Mais on en revient au juste pas juste. Je suis pas sûr que les Américains, sur leur marché, ils raisonnent autant en juste pas juste. Ils raisonnent plus en c'est comme ça, qu'est-ce qu'on en fait. Alors que le Français, il se dit c'est pas juste, pourquoi ça arrive, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça.
Il y a une approche très ingénieriale aussi en France. On a une culture très ingénieriale.
Ouais, ouais, bien sûr.
Et donc on a besoin de comprendre.
C'est pour ça qu'on était les meilleurs dans le nucléaire. Hein. Je sais pas si on l'a encore, mais par exemple,
on est toujours très chaud. Hein.
Ouais. C'est juste qu'aujourd'hui on le fait plus chez nous, on les exporte. Mais ça, c'est un vaste débat politique. Oui, on a une culture de se demander pourquoi, ce qui est une grande force dans plein d'endroits et une grande faiblesse dans plein d'autres endroits. Je sais pas si c'est un problème ça. Tu vois, c'est juste une spécificité culturelle qui donne des forces à des endroits, des faiblesses à d'autres. Hein.
Mais par contre, ça dépend au jeu auquel tu joues.
Ouais.
Si tu joues au jeu entrepreneurial, pourquoi?
C'est pas ouf, ouais.
Pourquoi? C'est une bonne question dans très peu de circonstances.
T'as des clients qui te demandent, oui, mais pourquoi? Et tu leur dis, franchement, j'en sais rien, je l'ai observé, ça marche, fais-le.
Ouais. C'est pourquoi c'est une phrase intéressante à l'échelle, pourquoi est intéressant à l'échelle micro? Par exemple, pourquoi mon salarié a réagi de cette manière. Là, ça peut être intéressant. Mais par contre, pour des questions macro, c'est vraiment intéressant.
Ouais.
Et alors, en fait, il te biaise dans le sens de justement du constat et de la proactivité.
Et à la fois, le et alors te pousse obligatoirement vers l'action, alors que des fois, faut rien en faire en fait. C'est comme ça. Pourquoi on s'en fout et alors rien. Juste c'est comme ça.
T'as aussi c'est là que tu vois aussi la dissension entre en France toute cette culture de la psychothérapie où tu vas chercher à investiguer sur ton passé, à comprendre pourquoi t'es comme ça, pourquoi tu réfléchis comme ça, pourquoi t'as ces problèmes. Là où aux États-Unis, t'as ce réflexe du coaching. Ok, t'es comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait? On va pas chercher à comprendre dans le détail ce qui t'a forgé ce mode de fonctionnement. La question, c'est comment est-ce que maintenant, t'en fais quelque chose d'intéressant?
J'aime bien le combo des deux. Mmh. Je trouve que psy plus coach, c'est vraiment un combo, mais ultra puissant. Ultime.
Mais j'aurais tendance à recommander, moi, alors c'est peut-être parce que j'ai fait comme ça, mais commencer par un travail psychothérapeutique et ensuite venir, sur la base de ce que t'as appris, greffer ça à ça un travail de coaching.
Je pense que ça dépend si on se place sur le pro, le perso ou la globalité.
Complètement.
Sur le pro, je mettrai le coaching d'abord. Sur le perso, je mettrais la psychothérapie d'abord. Et si on prend le global, c'est un travail qui peut se faire en parallèle. Je sais pas.
Bah, c'est présent, futur. Mm. En fait, ça te fait coïncider les trois, réconcilier les trois temporalités, quoi. C'est ça qui est cool.
Mm. Le business en ligne n'est pas la nouvelle opportunité facile pour tous. Le coaching encore moins. C'est un choix de carrière. Le propos avec ça est assez simple. Mais j'ai l'impression que ça s'est estompé, donc ça va mieux. Mais en 2018, à peu près, dans ces eaux-là surtout, on disait que le coaching à étiquette, le business en ligne, tous ces trucs-là, c'est la nouvelle opportunité de get rich quick. Heureusement, depuis, on a eu le Web3, les NFT, l'IA qui ont surpassé.
Ils ont foutu la paix un peu.
Ouais, du coup, on nous fait un peu moins chier dans nos métiers. Les gens voient un peu moins la lumière, tu vois. Là, maintenant, ils viennent faire des agences IA. C'est le nouveau SMMA. Donc, Social Media Marketing Agency, c'est AIAA. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Je sais juste que c'est des agences d'implémentation d'IA.
C'est bon, ça.
Et je vois encore des nouveaux trucs arriver. Mais en gros, c'est... j'ai pas de compétences, si ce n'est du marketing. Comment est-ce que j'en fais un service packagé que je vendrai à des gens? Et comme d'hab, hein, tu auras 1, 2, 5% de gens vraiment compétents qui vont émerger de ces trucs un peu limites et en faire des vraies belles boîtes. Et tout le reste qui vont passer à la nouvelle opportunité, quoi. De même que tous ceux qui sont arrivés dans le coaching ou dans l'infoproduit pour devenir riche, il y en a 1, 3, 5% qui en ont fait des très belles entreprises, qui vont durer, qui ont trouvé une vocation en chemin. Mais tout le reste va crever, quoi. Mais est-ce que c'est pas normal aussi, de toute façon, ça fait partie du marché, quoi.
Ouais, c'est pas déconnant en soi. Enfin, c'est aussi normal. Ouais, c'est une sélection. Je déteste ce terme de sélection naturelle parce que ça vient, ça découle d'une mécompréhension totale du darwinisme, mais t'as une sélection en tout cas naturelle ou pas qui s'opère pour tout un tas de raisons. Ouais, mais c'est marrant, hein, c'est cyclique de marché. Ça s'accélère de façon mais tellement considérable.
Avant c'était tous les 10 ans, c'est tous les 5, object, tous les 1, et là vraiment on voit des nouvelles tendances tous les 3 mois, quoi.
Et qui se ramifie de plus en plus. C'est-à-dire que tu vas avoir au sein de cette traîne de l'IA des micro-traînes de demain, ça va être les custom GPT, donc tu vas avoir limite des agences custom GPT qui vont se former et qui vont venir te faire des custom GPT et qui vont faire que ça, hein, des custom GPT métiers pour toute ta boîte.
T'as une des boîtes de The Quest qui fait ça, il me semble, et qui le fait bien en plus. Hein.
Des custom GPT?
Ouais, ils sont, enfin un truc qui ressemble. Je sais pas exactement. Il me semblait.
Ils font de la. Alors j'ai plus le terme. En gros, ils font de l'automatisation. Ils font de l'automatisation. Mais le projet est fou. Ça vient enregistrer ton ordi pendant une semaine. Ça identifie les patterns.
Trop bien.
Et après, ça automatise toutes les tâches répétitives.
Ah, trop cool.
Il faut trop que je le fasse.
Genre, toi, tu sais pas là où tu perds du temps.
Exactement.
Mais eux, ils savent le trouver.
Exactement.
Ah, c'est pas mal, ça.
Et pendant une semaine, ils t'observent. Et ensuite, ils disent, bah, ok, on va. Voilà ce qu'on peut automatiser, voilà comment on va le faire. On le fait, si tu vas gagner tant de temps, parce qu'on l'a observé, donc tu vas gagner tant de temps par définition. Et ensuite, ils viennent te mettre les robots là-dessus, l'IA qu'il faut pour venir le faire à ta place.
Propre. Très propre.
Très, très propre. Cette phrase résume le marketing et la persuasion à elle seule. Les gens feront n'importe quoi pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, apaisent leurs peurs, confirment leurs soupçons et les aident à jeter des pierres à leurs ennemis. Blair Warren dans The One Sentence Persuasion Course. Je l'ai trouvé dans une vidéo de Victor Ferry, qu'on salue.
J'aime beaucoup. C'est un principe de copywriting qu'on connaît bien depuis très, très longtemps. Ça a été surthéorisé par Dan Kennedy, Ogilvy, je sais pas comment on prononce. Et tout consort du papy copywriting game. C'est que globalement, surtout la base d'un marché, donc le mass market, si t'arrives à leur dire tous tes problèmes dans la vie sont pas ta faute, t'inquiète, regarde, c'est le méchant là-bas et moi je vais t'aider, on m'a élu de président comme ça quand même, tu peux leur vendre n'importe quoi qui sur le papier, grâce à un nouveau mécanisme, résout leur problème, quoi. Et ça amène des trucs trop cool et ça amène des trucs pas cool du tout.
Cette phrase est extrêmement puissante parce qu'il y a tout dedans, quoi. Il y a encourager les rêves. Donc, on parlait des trois temporalités. Encourager les rêves. Bah, encourager ton futur. Justifie leurs échecs. Ça te rassure sur ton passé.
Responsabilité. Ouais.
Ça apaise tes peurs de l'instant, du présent. Ça confirme tes soupçons du présent. Et ça t'aide à jeter les pierres à tes ennemis.
La stratégie de l'ennemi commun.
Ouais.
Nous contre eux.
Et cette phrase, je la trouve tellement brillantissime parce qu'elle explique tout.
Elle dit tout d'une façon extrêmement simple et elle résume l'entièreté du marketing et de la vente.
Marketing politique aussi, comme je l'ai dit.
Ouais, clairement.
Et est-ce que pour toi, on peut faire du bon marketing sans ça, en t'émancipant cette phrase? Est-ce que c'est possible par idiosyncrasie un peu radicale de se dire, ok, je vais faire absolument tout l'inverse et ça va marcher?
Non, je pense pas.
Ouais.
Je pense qu'on peut en enlever un bout. Tu vois, on n'est pas obligé de lyncher les ennemis. Je pense que c'est une très bonne stratégie, la stratégie de l'ennemi commun en tant qu'outsider pour prendre une place. Mais qu'à un moment, si t'es juste contre tout le temps, tu restes un parti d'opposition. Et un parti d'opposition ne doit pas accéder au pouvoir. Petit message caché. Et c'est pas, tu vas pas faire de grandes choses, tu vois. Ça dépend de ce que tu veux monter comme boîte. Si tu veux être une petite boîte, on s'en fout. Si tu veux être une très grande boîte, il y a un moment, il va falloir que tu sois pour quelque chose.
Pour moi, en fait, parti d'opposition, c'est même au-delà de ça, c'est fait partie du pouvoir.
Oui. Mais ne doit pas être.
Exactement. Ouais. C'est une composante du pouvoir.
Oui.
Et
ce qui se comprend très très bien quand on regarde des séries politiques sur les pays nordiques. T'as une série très très bien qui s'appelle Borgen. Sur la fausse première ministre du Danemark, et ça montre un peu les spin doctors, les partis d'opposition, comment ils travaillent ensemble, etc. C'est hyper intéressant. Et là, tu comprends à quoi ça sert le pouvoir. Mais c'est tous les pays de tout en haut, là où il fait nuit là, et froid, ils ont beaucoup mieux compris ça que nous.
Et tu viens greffer à cette phrase-là l'input, l'output, outcome, ton framework, qui a plus te faire te concentrer sur ton produit, et en fait là tu peux faire quelque chose d'extrêmement intéressant quoi finalement.
Le marché de l'auto-éducation devrait monter à 350 milliards dans les deux prochaines années.
Alors définis auto-éducation.
Cours en ligne, coaching, consulting, formation, tous ces trucs là. Il y a un vrai truc qui est en train de se jouer, qui est le self. Alors, aux États-Unis, c'est plus normal, parce qu'en fait, tout le monde paye sa fac 100K, se former en à côté avec des formations à 2, 3, 5 000 balles, là-bas, c'est déjà la norme. Et j'ai l'impression que c'est en train de se démocratiser en Europe de plus en plus. Au début, c'était vraiment l'apanage des universités, des grandes écoles qui faisaient des MOOC, donc des cours d'école en ligne. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des petits acteurs indépendants qui arrivent sur des trucs très spécifiques, et que ça va devenir complètement normal de se former sur des petits trucs auprès de petits indépendants très spécialistes d'un sujet, et que c'est ça qui va faire grossir le marché aussi. Même si la démocratisation ne viendra pas des petits, mais viendra des très gros. Est-ce que tu l'as observé aussi, ça?
Bah, tendanciellement, enfin, ça, c'est en train de se profiler de cette manière-là. Structurellement aussi, au niveau des industries. Bah, tu regardes, pour moi, il y a différents layers dans un marché. T'as les vendeurs de pelles, t'as les gens qui utilisent les pelles, t'as ceux qui produisent les pelles, t'as ceux qui les vendent, t'as ceux qui permettent à toute l'industrie de tenir. Donc t'as ceux qui vont acheminer la bouffe, t'as ceux qui vont construire les logements. Puis après t'as ceux qui vont permettre les flux en interne. Donc t'as ceux qui vont vendre l'accès à Internet, t'as ceux qui vont vendre l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Et eux en fait tiennent le plus gros du marché grosso modo, et c'est ceux qui vont générer le plus de cash sur la plus grande durée, qui vont être les plus solides. Mais quand tu vois que t'as des acteurs qui commencent à se structurer de plus en plus sur ces layers-là très hautes pour venir permettre aux petits orpailleurs et aux constructeurs de pelles de prospérer, quand tu vois des schools par exemple qui commencent à péter,
et Gumroad, c'est pas les seuls,
Gumroad ou quoi, bah tu vois qu'effectivement il y a quelque chose qui commence à se structurer pour permettre à beaucoup plus, de plus en plus de petits orpailleurs avec leurs pelles de venir chercher des petites pépites. Et donc oui, enfin là il se passe un truc, et en plus de ça, ça va de pair avec une évangélisation de plus en plus, enfin un marché qui s'auto-évangélise, qui s'auto-éduque. T'as aussi pour moi il y a eu un shift majeur, hein, c'est ce qu'on appelait infopreneuriat il y a quelques temps, aujourd'hui on appelle ça la creator economy. Donc t'as un adoucissement sémantique énorme. Donc infopreneur, influenceur est devenu un créateur. Et on parle plus de quelque chose de shady, on parle d'une économie.
Freelance et un solopreneur.
Ça dit tout, ça dit absolument tout.
Ouais, c'est vrai.
Alors l'artiste peint une toile parfaite une seule fois, puis la vend une fois. L'entrepreneur peint 100 fois la même toile, d'abord très mal, puis un peu mieux à chaque fois, et essaie de la vendre à chaque étape. L'un vise le parfait et le beau, selon son propre référentiel. L'autre vise le rendement et le fonctionnel.
J'écoutais cette histoire, je crois que c'était Hormozy chez Williamson qui le disait. Tout le monde raconte cette histoire un peu différemment. Une fois c'est avec de la photo, une fois c'est avec de la poterie, etc. On va dire que c'est de la photo. C'est des étudiants qui arrivent dans un cours de photo aux États-Unis. Et à un groupe, on dit, Vous avez le droit de faire une seule photo de tout le semestre. Vous serez jugé dessus. Faites la meilleure photo possible. À l'autre groupe, on dit, faites le maximum de photos. Plus vous en faites, meilleure sera votre note. Ceux qui ont fait des milliers de photos, non seulement ont fini par produire une photo bien meilleure que ceux qui n'en ont fait qu'une, mais en plus, la moyenne de toutes leurs photos sont plutôt supérieures à ceux qui ont fait qu'une seule photo. Et quand on veut produire quelque chose d'extraordinaire, il vaut mieux produire beaucoup, parce que par petits incréments, c'est plus facile de devenir bon dans quelque chose que de faire quelque chose de parfait une seule fois, du premier coup.
Et c'est alors j'ai plus le nom du chercheur qui a trouvé cette corrélation tellement forte que ça devient limite une causalité entre le nombre de chefs-d'œuvre par artiste et le nombre d'œuvres totales qu'il a produites. Mmh. Et en fait, plus
Picasso a énormément produit.
Énormément.
Warhol aussi.
Et on retient 0,01% peut-être de... Mmh. Non, peut-être pas, mais 0...
Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais dans un musée, dans n'importe quelle grande ville du monde, il y a 25 trucs de Picasso. Ah ouais, tu dis, il a vraiment fait beaucoup. Hein.
Mais combien on en retient? Une dizaine peut-être?
5, 10, ouais.
Ouais. Et c'est marrant, c'était une discussion que j'avais la dernière fois avec sur un autre podcast. En fait, si on extrapole un petit peu, tu sais, il y a cette dichotomie, et volontairement, en fait, je place cette dichotomie-là au centre entre l'artiste et l'entrepreneur. Mm. Et si on fait extension, l'artiste amène la poésie, en fait. Mm. Et en fait, je trouve cette dichotomie et cette opposition complètement débile, parce que là où oui, l'entrepreneur va te permettre de construire une maison, mais en fait, l'artiste, le poète, c'est lui qui rend l'intérieur de cette maison, la vie dans cette maison vivable et supportable, quoi. Ouais. Et donc, ne chercher l'entrepreneur en toute chose, bah, c'est le meilleur moyen de te retrouver avec des murs vides qui ont absolument aucun intérêt, aucune vie.
Et des maisons qui sont les mêmes sur toute la planète parce que c'est comme ça qu'on les fabrique le plus facilement et que c'est le plus rentable.
Ouais. Et pareil avec l'artiste. Enfin, l'artiste, à un moment donné, a besoin aussi.
Et si on a que des maisons rondes, ça serait pas pratique, quoi.
Exactement. Et c'est pour ça que je m'efforce de pratiquer un entrepreneuriat qui n'exclut pas, qui essaie d'inviter un petit peu d'artistique, un petit peu de poésie, un peu de beau, de pas chercher du ROI en tout, parce que c'est ce qui rend aussi le truc cool, quoi.
Je parlais de ça hier soir avec des entrepreneurs que j'ai croisés sur Paris, et je disais, des fois, il y a des trucs qui sont improductifs, qui sont du défocus, qui n'ont pas de sens et qui te font perdre de l'argent, mais si ça te fait plaisir de les faire, c'est peut-être une raison suffisante. Et donc, des fois, on peut faire des moves d'artiste en disant, au niveau entrepreneurial et rentabilité, ça tient pas, c'est débile, mais j'ai envie de le faire, donc je vais le faire. Et je vais le faire pour le simple fait d'avoir envie de le faire.
Merci, c'était trop cool.
Merci à toi pour l'invitation.
On va se refaire ça quoi qu'il arrive, parce que vous ayez aimé ou pas, nous on a aimé, donc on va le refaire. J'ai envie de continuer de nous entendre raconter des trucs. On se retrouve dans une autre vidéo qui s'enchaîne là, avec nous deux. Et on se dit à très vite. Si vous avez kiffé, pensez à liker, à vous abonner, à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire pour le référencement, ou sinon postez un emoji. Merci. Voilà, dans les commentaires. Merci Jérémy.
Merci à toi.
Très vite, ciao.